Vous êtes sur RTL.
22h, minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Et si vous désirez me parler, c'est très simple. Je vous invite à composer le standard de Parlons-nous au prix d'un appel local 09 69 39 10 11. Vous pouvez aussi appeler ces numéros si un témoignage vous interpelle, vous touche et que vous souhaitez dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez envoyer un petit SMS. C'est ce qu'a fait Fabienne pour Charlotte qui témoignait depuis 23h. Elle dit « Ouh, vous savez, Richard Burton et Liz Taylor se sont remis ensemble cette fois. Alors à voir pour la suite en ce qui concerne votre ami et votre frère. » Fabienne qui ajoute « En tout cas, Charlotte est adorable. » Elle est nature, et je suis sûre qu'elle va y arriver à prendre de la distance et à trouver les mots pour son ami. Bonsoir Jess.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être reçu par vous et votre équipe.
Ah ben c'est gentil, on est ravis de vous accueillir dans Parlons-nous. Vous voulez nous parler, je crois, d'une rencontre qui vous a beaucoup marqué, enfin qui vous marque, une rencontre oui. que vous avez faite sur Internet avec une jeune femme, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça. Pour expliquer le plus rapidement possible, on s'est rencontrés pendant la période du confinement, le dernier confinement.
Oui.
Donc moi j'habite, je suis sur Paris, elle est quelque part dans une ville pas loin. D'accord. Et j'étais dans le sud à ce moment-là. Mm-hmm. Donc on pouvait pas matériellement se rencontrer, du moins dans un premier temps.
Oui.
Et c'est passé quelque chose de très fort assez rapidement. Bon, dès le départ, je dois dire qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a 18 ans de moins que moi, ce qui est pas rien. Mm-hmm. Mais j'avais pas cherché, hein. Je veux dire, j'avais pas, j'avais mis une annonce qui était très, très, très bien écrite, modestement, mais qui cherchait rien de particulier. Et elle a été, attirée par mon style d'écriture. Parce qu'il n'y avait même pas de photo au début, vous voyez.
Ah oui, d'accord.
Elle a été attirée par mon style d'écriture.
Oui.
Et qui était poétique, c'est ce qu'elle m'a dit. Et rapidement, il s'est passé quelque chose de très fort. Je suis un peu ému parce que ça m'a tellement perturbé.
Oui.
Ça me perturbe encore même. Elle m'a confié son parcours, sa vie. Et je me suis pris d'empathie pour elle. Et donc, je l'ai beaucoup écoutée. Et comment dirais-je? L'ayant beaucoup écoutée, je l'ai soutenue, si vous voulez. Elle me racontait qu'elle avait arrêté ses études, qu'au niveau de son métier, elle aurait pu être mieux. Comme moi, j'ai connu ça. J'étais en parfaite sympathie.
Oui.
Et puis, au-delà de ça, il s'est passé quelque chose de très, très surprenant. C'est que moi, je suis essentiellement artiste dramatique, comédien.
Mmh.
Et j'ai un projet, mais depuis longtemps, je veux dire, ça remonte avant le confinement.
Oui.
Un pro.
Ah, Jess.
Ouais.
Ça a coupé. J'ai eu peur que vous ne soyez plus là. Vous étiez en train de me parler, oui, d'un projet, donc avant le confinement.
Voilà un projet d'ordre artistique, de scène, seul sur la scène, seul en scène.
Au théâtre.
Voilà, c'est ça. À partir de textes poétiques du 19e siècle, un peu poète maudit. Et j'ai vu que cette thématique lui plaisait. Et rapidement, je lui ai proposé, un peu tous les jours, de lui poster des poèmes que je lui proférais. Et de fil en aiguille, ça en est venu à ce que je file mon texte. C'est-à-dire un texte qui fait à peu près une heure, sans note, je lui disais mon texte au
Vous
téléphone.
Répétiez avec elle, finalement. Elle avait de la chance, là où on est privé de culture, de théâtre. Mmh. Pour elle, toute seule, elle avait comme ça un spectacle vivant.
C'est ça, vivant, c'est le cas de le dire.
Oui.
Ouais. Et elle aimait beaucoup.
Mmh.
Et moi, j'ai pas peur de le dire, elle est devenue ma muse. Je lui disais même, tu es ma muse, ma maîtresse, ma madone, pour paraphraser le poète.
Ouais.
Parce que vous voyez, elle me plaisait autant physiquement, bien sûr, parce qu'elle m'envoyait des vidéos d'elle, des vidéos très chastes, bien sûr. Hein. Donc elle me plaisait physiquement, j'aimais le timbre de sa voix. Et très rapidement, c'est devenu ma muse. Et j'ai même réécrit mon texte parce que j'ai dû de lui donner comme ça 3 ou 4 fois.
Oui.
Et je me suis rendu compte de certaines choses à reprendre, enfin que j'avais envie de reprendre, parce qu'elle m'inspirait.
Elle vous inspirait beaucoup, oui.
Voilà. Mmh. Et ayant repris le texte, j'avais une pêche. Je ne sais pas si elle était du paradis ou de l'enfer, ma pêche, mais j'avais une pêche d'enfer, quoi, énorme, énorme. Mmh. Et j'étais heureux. Et très rapidement, il y a eu une espèce de moment de bascule, sans analyser plus avant les choses.
Oui.
Elle est devenue très déclarative, quoi. C'est-à-dire qu'elle me disait je t'aime, tu me bouleverses, elle me faisait des vidéos un peu comme une comédienne qu'elle n'est pas en plus. Et ça me gênait. Ça me gênait parce qu'elle faisait monter la sauce, si j'ose dire. Et moi, je me sentais pris d'une passion que je contrôlais plus. Vous savez, Caroline, je vous fais cette confiance. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler. C'est un peu mon métier d'ailleurs, hein, parce qu'on travaille dans les émotions, mais si on ne se contrôle pas, on part en vrille. Vous voyez, c'est un peu comme le musicien, il doit contrôler son instrument. Et à un moment, c'est allé très 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 loin. Je sentais son désir pour moi et j'essayais de lui dire, il faut pas qu'on reste trop longtemps au téléphone comme ça. Il faut qu'on se rencontre rapidement.
Et oui.
Et j'avais négocié une première date le 24 décembre, la fin du couvre-feu. Malheureusement, elle partait en Espagne avec son frère une semaine. Du moins, c'est ce qu'elle m'avait dit. Et après, ça reportait au 16 janvier, le samedi 16.
Oui.
Et là, 3 jours avant, s'est passé quelque chose de pas bien au téléphone. Je sentais qu'elle était réticente pour la rencontre.
Oui.
Qu'elle était, j'ai envie de dire, perchée dans l'imaginaire, dans le virtuel. Parce qu'elle m'avait dit, elle est tellement belle, notre relation, que j'aimerais que ça reste comme ça.
Ah,
et moi, j'avais dit, t'as parfaitement raison. J'ai même dit cette phrase. D'ailleurs, je le regrette après coup, j'ai dit cette phrase. Tu sais, les plus belles histoires d'amour, ce sont celles qu'on n'a pas vécues.
Eh oui, oui.
Et du coup, parce que je ne vous raconte pas tout ce qui s'était passé dans les discussions, je savais qu'elle avait un ami.
Oui.
Beaucoup plus vieux qu'elle, et beaucoup plus vieux que moi d'ailleurs, qui a plus de 70 ans, qui se présentait comme un confident, mais qu'elle avait connu quand même par Internet, dans une rubrique d'amitié. Enfin, c'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, bien évidemment, je n'ai pas de raison de la remettre en cause, hein, ça, c'est ce qu'elle me dit. Mais je sentais pas trop le truc, parce que j'avais posé des questions, je lui avais dit, c'était une rubrique d'amitié. Mais est-ce qu'il a pas tenté sa chance un moment avec toi? Ben si, c'est vrai, il a essayé de me séduire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben officiellement, il avait une amie ou une compagne, et puis il m'invitait dans des soirées qu'il faisait chez lui, etc. Moi, je ne me reconnaissais pas le droit de faire le jaloux, ça aurait été
c'est
mal.
C'est compliqué, oui.
Voilà, puis je ne la connais pas, en plus, et lui, a fortiori. À plus forte raison, je ne le connais pas non plus. Mais bon, je n'étais pas super à l'aise avec cette histoire.
Mais pourquoi elle vous en a parlé, d'ailleurs?
Oui,
en fait, comment elle en est venue à parler de cet homme, finalement?
Dès le début, elle me l'a dit.
Ah, dès le début?
Ouais. Ouais.
C'est étonnant, non, je trouve, quand on s'inscrit sur un site de rencontre.
Mais ce qui est étonnant, justement, c'est que moi, j'ai mis mon annonce.
Oui.
Et quand elle m'a répondu, elle m'a dit, est-ce que je peux correspondre avec vous? Et moi, j'ai dit oui, bien évidemment. Mais elle s'est abritée derrière ce genre de formule. Je recherche rien de particulier. J'ai beaucoup aimé votre annonce. J'ai beaucoup hésité avant de vous répondre. Mais je recherche rien de particulier. Et moi, j'ai dit, ça tombe bien parce que moi non plus. Idéalement, je recherche l'amour.
Oui.
Idéalement.
Oui.
Mais je ne le cherche pas de manière obsessionnelle et à tout prix.
D'accord, oui, vous l'avez entendu comme ça au départ, ce que je comprends très bien. C'est finalement parfois quand on ne cherche pas à tout prix que l'on trouve. Mais de son côté à elle, voilà, qu'est-ce qu'elle cherche, elle? Et elle vous en a donc parlé assez rapidement de cet homme-là, ce monsieur de 70 ans avec qui elle entretient une relation d'amitié, bon.
Un peu de main tort, peut-être, je ne sais pas.
Oui.
Enfin, toujours est-il qu'elle m'en a parlé, comment dirais-je, sur un ton de « est-ce que ça ne te gêne pas que j'ai un confident ?» Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle le met sur le tapis dans une position de presque d'un intrus. Et elle me demande si je le considère comme tel, comme un intrus ou pas.
C'est-à-dire que rien que le fait de poser de ce genre de questions, oui, elle introduit un tiers. Mmh. Et ce tiers, finalement, oui, a valeur d'intrus et peut susciter un peu de jalousie. Enfin,
c'est ça, c'est ça.
C'est pas anodin de l'amener là,
non,
comme ça.
Non, non.
De sa part à elle, hein, je veux dire.
Oui, oui, j'entends bien, j'entends bien. Et du coup, il est resté dans mon champ mental, je dirais, en permanence.
Oui, vous y avez pensé malgré tout, même si vous vous êtes enflammé après. Il était quand même toujours là, un peu, dans votre esprit.
Et une semaine avant la rencontre qui devait avoir lieu, au téléphone, elle m'avait dit qu'elle allait passer une journée avec lui. De manière de dire que le soir, il y aurait d'autres personnes qui faisaient une soirée. Un peu étrange quand même, hein, parce qu'on était déjà dans le confinement de 18h.
Je suis d'accord avec vous. Et puis, pourquoi vous le dire? En plus, comme la veille où vous allez vous rencontrer, alors que ça fait des mois que... Oui, pourquoi allez-vous dire ça, au fond? Enfin, vous ne lui avez pas demandé pourquoi elle vous en parlait?
Je ne lui ai pas demandé directement, mais je lui ai fait comprendre que... ça n'avait pas lieu d'être.
Oui,
que c'était pas très adroit. Je ne lui ai pas dit c'est maladroit, mais je lui ai dit pourquoi tu me dis ça? D'abord, ça ne me regarde pas, c'est ta vie privée. On ne se connaît pas suffisamment pour que tu me fasses ce genre
de
confidence.
C'est un peu de la provocation vis-à-vis de vous.
J'ai l'impression.
Oui.
Surtout rétrospectivement, pardon. Mmh. J'ai cette impression-là. Mmh. Parce qu'une semaine avant la rencontre, justement, je me souviens, c'était un samedi, elle m'avait dit qu'elle avait passé la journée avec lui. Elle m'a appelé le soir, il était quoi, 22h, quelque chose comme ça, donc relativement tard, sans être excessivement tard, mais quand même. Et je la sentais pas super à...
Oui.
Je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je suis fatigué. Bon, d'accord. Et ça s'est bien passé, ta journée? Pas tellement. Ah bon, pourquoi? Parce que le soir, il y avait du monde, j'arrêtais pas de penser à toi, c'est mon prénom, ton prénom qui me venait, mon prénom à moi, qui me venait en bouche. Et puis, immédiatement, j'ai dit, tu lui as parlé de moi, ce monsieur? Oui. Et là, peut-être que j'ai parlé trop vite, mais je lui ai dit, et il t'a sûrement dit des choses pas très saines sur moi. Il t'a dit, c'est grave, c'est dangereux, etc. etc. Elle m'a dit oui. Et là, immédiatement, je lui dis, mais tu sais quoi? On est en position de rivalité, quelque part.
Complètement.
Donc, c'est pas très sain. Et elle a compris que j'étais dans...
Vous vouliez pas rentrer dans ce jeu-là.
Voilà. Mmh. Et le lendemain, on a reparlé au téléphone, le dimanche après, elle est dit, c'était très bien, c'était tendre, affectueux. Mais le mercredi suivant, ça c'est bizarre, hein, parce qu'on dirait un film avec un compte à rebours. Hein. Mais c'est ça. Le mercredi suivant, donc on était à jeudi, vendredi, samedi, 3 jours avant notre rencontre.
Oui.
Étant précisé que j'étais encore en région et que moi je prenais le train le surlendemain pour revenir sur Paris, que j'avais réservé bien à l'avance.
Oui.
Et là, au téléphone, avant le téléphone, on avait rendez-vous. On avait prévu de se parler le soir sans fixer d'heure, bien sûr, mais elle ne m'appelait pas. Le temps passe, je l'appelle, ça ne répond pas. Et puis, elle finit par m'envoyer un SMS où elle me dit « Je ne peux pas te répondre, je suis en train de t'écrire un mail. » D'accord, pourquoi pas. 30 minutes après, ou je ne sais pas combien, 40, peu importe, toujours pas de mail. Je la relance, non pas que je sois impatient, mais j'ai dit « Mais...
oui. »
Apparemment, tu veux m'écrire quelque chose qui ne passe pas par l'oralité. Il y a quelque chose de grave qui se joue.
Oui.
Elle me dit non, pas grave, mais important. Bon, je prends l'initiative de l'appeler. Je force un peu le coup, si j'ose dire. Elle me répond. Là, je la sens vraiment... la première question qu'elle me pose, c'est... et si on ne se voyait pas ce samedi, ça ne te dérangerait pas? Et moi, je réponds du tac au tac, sans agressivité. Hein. Doucement, je lui dis, disons que moi, j'ai organisé mon retour le samedi, le vendredi.
Oui.
Je rentre vendredi soir. On pourrait très bien reporter, mais je ne vois pas pourquoi. Tout est prévu, tout est préparé. Toi, on avait une espèce de rituel. Moi, je devais acheter un DVD pour lui faire voir un film, dont je devais beaucoup parler, qu'elle ne connaissait pas. Je voulais lui faire découvrir, première chose. Deuxième chose, je voulais lui faire don cadeau modestement, mais ce qui est important pour tous les deux, de mon spectacle en chair et à l'os, et non pas derrière un téléphone. Donc j'étais vraiment motivé pour la chose. Et puis après, le reste, c'était la surprise, si j'ose dire.
Ça faisait combien de temps que vous échangiez, là ?
Globalement, je dirais 2 gros mois.
D'accord.
C'est à la fois très court et très long, hein, parce qu'on s'appelait tous les jours.
Oui, oui, vous appeliez tous les jours, d'accord.
Et c'était des discussions qui allaient entre 2 et 3 heures. C'était trop, d'ailleurs. C'était trop. C'est un peu addictif, quelque part.
Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle ne travaillait pas, elle...
Si, justement, c'est, oui.
Il faut
départ.
Avoir le temps, la disponibilité.
Officiellement, donc elle a la petite trentaine, officiellement, elle est psycho-spécialisée dans l'enfance. Un peu comme vous, tiens, ça me fait penser d'ailleurs, c'est drôle. Et elle travaille dans une crèche, coordinatrice pédagogique, m'a-t-elle dit. Un boulot qui ne correspond pas à ses compétences. Et puis surtout, elle m'a fait comprendre qu'elle avait arrêté ses études prématurément. Moi, j'ai connu ça. Hein. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, j'aurais dû être avocat. Et j'avais arrêté prématurément à 30 ans parce que j'avais pété les plombs. Quoi.
Elle était psychologue parce que elle
C'est
parle
ce qu'elle m'a dit.
D'arrêter ses études prématurément. Enfin,
bah, disons
qu'elle
a
fait au moins 5 ans après le bac.
Elle m'a dit, je ne vais pas donner des noms, mais elle était prise d'un institut qui est très connu à Paris.
Ah oui, d'accord, donc ce n'est pas, voilà. Pas par le circuit universitaire.
Elle avait fait le circuit universitaire, mais c'était d'accord. Après qu'elle était prise dans ce truc-là.
D'accord. Donc finalement, elle vous dit, parce qu'elle elle était soi-disant enfin, en train de vous écrire un mail, vous parlez de cette rencontre, vous sentez qu'au fond, elle ne va pas avoir lieu. Mais qu'avait-elle à vous dire d'important? Puisqu'elle vous dit, non, j'ai quelque chose à te dire d'important.
Ben, en fait, moi j'ai l'impression que... Parce qu'elle ne me l'a pas vraiment dit.
Elle ne vous a pas envoyé ce mail, finalement?
Non, il n'a jamais existé.
Et elle ne vous a pas dit ce qu'elle avait à vous dire d'important?
Ben moi, j'ai l'impression que... Parce que je vais vous expliquer le clash qui va arriver.
Oui.
J'ai l'impression qu'elle voulait juste me dire qu'elle voulait reporter le rendez-vous parce qu'elle n'était pas prête.
Oui. C'était le premier rendez-vous que vous vous fixiez?
Oui, oui.
D'accord.
Oui, oui.
D'accord.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis mis... J'étais inspiré, je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis à lui dire la chose suivante. Je lui dis, tu sais, notre relation... Ce n'était pas négatif, hein. Notre relation, littéralement... Elle est un peu spectrale, fantomatique. Moi qui suis un descendant modestement de Louis Jouvet qui avait écrit Le comédien désincarné, puisque le comédien il incarne ce qui est désincarné, c'est-à-dire un texte, notre relation elle est désincarnée. On est au téléphone, on s'envoie des vidéos, des sons, des voix, mais notre corps n'existe pas et il est temps qu'on passe justement à l'incarnation, quelles qu'en soient les modalités.
Que vous lui montriez votre spectacle en chair, plutôt qu'en os d'ailleurs.
Oui, et sans arrêt.
Il n'y a pas d'os.
Non. Et comment dirais-je et quand je lui ai expliqué ça, elle me dit oui, on me l'a dit. Et moi, spontanément, sans réfléchir, sans arrière-pensée, l'autre. Je lui dis, mais on, qui,
oui,
on ?
L'autre.
Et j'ai même pas pensé sur le coup, hein, vraiment. Et je lui dis la phrase suivante, tu sais que on est un con, enfin c'est un proverbe un peu imbécile, mais, et je lui dis, c'est qui ? C'est ton coach personnel ? Puis elle me fait un petit rire de gorge, comme ça, qui me fait craquer généralement d'ailleurs, et, parce que j'ai même pas pensé à ce monsieur. Et puis elle me dit, oui, on peut dire ça. Et c'est là que j'ai eu l'éclair, je me suis dit, mince, voilà le rival qui refait surface, ou qui fait surface.
Oui.
Et là, je me suis senti agacé.
Oui.
Et je lui ai lancé une phrase assassine que j'ai regrettée après. Mais dans ma tête, elle n'était pas violente, ma phrase. C'était du cynisme, une espèce d'humour noir, où je lui ai dit ceci, en substance, bien sûr, je ne me suis pas enregistré, mais je lui ai dit à peu près ceci. Ah, mais c'est vrai. Toi, tu es attiré par les messieurs très vieux, et moi qui suis plus vieux que toi, finalement, je suis encore trop jeune. Et puis, j'ai employé un mot sûrement cruel. Dans ma tête, je ne faisais pas allusion au fait de se faire entretenir au niveau de l'argent. Mais je lui ai dit, pardon, tu as envie de te faire entretenir par des messieurs d'un certain âge. Et là, sa voix s'est décomposée. Un timbre de voix complètement étrange que je n'y connaissais pas. Et paf, elle raccroche au nez.
Oui.
Et pendant une semaine,
oui.
Aucune nouvelle, rien du tout. Alors notre rendez-vous est passé à l'as, par définition, mais c'est surtout que je ne savais pas du tout à quoi m'en tenir. Moi, je lui envoyais des messages où je lui demandais pardon. Parce que je suis quelqu'un de courtois et de poli, je ne présentais pas mes excuses. C'était dans mon attitude, pardon, je suis désolé, je ne voulais pas te faire de peine. Loin de moi cette idée. Je voulais peut-être te faire
réagir.
Elle
vous avait blessé, vous voulez la faire réagir. Elle vous avait blessé aussi.
Mais c'est ça.
En vous mettant en rivalité très consciemment avec cet autre homme. Enfin,
c'est
qui
ça,
existe,
c'est
qui
ça.
N'existe pas, bon, peu importe. Mais
voilà.
Au fond, elle vous met en rivalité. Bon.
C'est ça.
Donc vous avez
ça.
Réagi, vous étiez blessé.
Et donc, pendant une semaine, aucune nouvelle. Et puis, j'ai réussi, à force d'insistance, à l'avoir une semaine après au téléphone. J'avoue que j'ai fait une grosse bêtise. On est resté 2h30. Pendant les deux premières heures, j'étais en mode monologue.
C'est elle qui a rappelé ou c'est vous enfin...
C'est moi. Enfin, en fait, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu.
Oui.
Puis elle m'a envoyé un message,
d'accord.
Un texto.
D'accord.
Et j'ai rappelé derrière, elle a répondu.
Oui.
Et d'accord. Pendant 2 heures, j'ai beaucoup trop parlé, mais au bout de la dernière demi-heure, j'étais plus dans l'empathie. Et là, elle n'arrêtait pas de me dire, je suis contente de t'entendre. Mais le lendemain, retour de cette attitude que je ne comprends pas.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe
là ? Elle m'a envoyé un SMS en me souhaitant une bonne journée, truc comme ça, et en signant affectueusement. C'est-à-dire une phrase volontairement distante. Et à partir de là, elle arrête de me donner des nouvelles.
Bon.
Et là, je me suis énervé. Enfin, quand je dis je me suis énervé, je veux faire cette confidence, je ne me suis pas énervé. J'ai senti venir une espèce de sentiment dépressif. Parce que j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais je suis victime de rien du tout. Hein. Je ne me pose pas en victime.
Oui, mais elle joue avec vous.
Elle a fait monter. Oui. Parce que moi, vous voyez, à un moment, elle m'a dit ceci. Elle m'a dit,
continuer à se parler, hein, Jess, mais ce sera après les infos.
22h, minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Parlons-nous sur RTL de tous les sujets qui vous concernent. L'antenne est à vous au 09 69 39 10 11. Vous pouvez aussi composer ce numéro si vous souhaitez, bien sûr, me parler, mais réagir également à un témoignage. Vous pouvez le faire par SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par SMS, ou encore sur notre page Facebook RTL-RTL. Parlons-nous sans plus attendre. On va retrouver Jess. Donc Jess, vous nous avez expliqué, depuis 2-3 mois, vous conversez tous les jours avec une jeune femme qui vous plaît énormément, qui est votre muse. Au départ, cette relation vous rend très euphorique. Et puis, vous dites qu'au fil du temps, et face à ses réactions, à cet homme dont elle vous parle, beaucoup plus âgé, elle vous met clairement en rivalité avec lui. Vous vous sentez un peu envahi par un vide dépressif. Et on en était resté au fait que passer un peu votre coup de sang, mais moi je trouve personnellement qu'il était tout à fait légitime au vu de la façon dont elle se comportait. Bon, vous vous rappelez, vous parlez, vous, beaucoup. Et le lendemain, un message où elle vous dit... Enfin, on en était resté là. Elle allait vous dire quelque chose.
Oui. Non, un message d'une banalité confondante,
oui.
Où elle me souhaite une bonne journée, en signant affectueusement, alors que d'habitude c'était des mots d'amour, un peu confiture. Et ce que j'allais dire, c'est que cette histoire, c'est difficile d'en parler comme ça, parce que j'ai l'impression qu'elle a fait monter toutes les émotions. Moi, je suis un être d'émotions, je vis avec ça, je travaille avec ça et j'aime les émotions. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, j'aime les contrôler, ne pas me faire déborder. Et, par exemple, je vais donner des exemples. À un moment, parce que vous l'imaginez bien, c'est normal, c'est naturel, il n'y a rien de malsain là-dedans. Mais à force de parler comme ça pendant des heures, il y a du désir. Le désir est alimenté par l'imagination, bien sûr, mais il repose sur le timbre de la voix, les confidences, les chuchotements, etc. Et moi, je me suis dit, c'est dangereux. Parce que je ne veux pas tomber dans le piège, ça y est, on se désire au téléphone, non. Seule la vie réelle est intéressante. Mmh. Mais elle m'a entraîné sur ce chemin-là.
Et oui, bien sûr.
Et donc, je me suis senti partir. Et ces déclarations d'amour étaient tellement fortes. C'est là où il y a eu... je puis vous assurer que c'est... Je ne suis pas lucide sur mon cas. Parce que je me demande, est-ce que j'ai été manipulé volontairement? Ou est-ce qu'elle est victime de sa propre personnalité? Parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire « J'espère que tu ne vas pas disparaître. » Alors que notre conversation était normale. Elle me disait « J'espère que tu ne vas pas disparaître. Et si ça ne marche pas entre nous, on restera des amis. Ben » Mais je disais « Mais tu mets la charrue devant les bœufs, ça ne se pose pas. Ouais. Il faut d'abord se rencontrer dans le réel. Oui. » Et en fait... comme si elle préparait cette espèce de retournement, puisque c'est elle qui est partie. Mmh. C'est elle qui m'a claqué la porte au nez, la porte du téléphone en l'occurrence.
C'est-à-dire depuis ce message où elle signe affectueusement, vous n'avez plus de nouvelles?
Ben, j'ai eu des nouvelles. Je vais vous expliquer. En fait, bon, j'ai fait une grosse bêtise, mais que j'assume. Mmh. Parce que ce n'est pas une bêtise, ce n'est pas un acte manqué. Oui. C'est même assumé. J'ai remis une annonce sur le même site.
Oui, ben non, sauf c'est pas une bêtise, oui.
Sauf que je l'ai écrit dans le même style, sans
d'accord.
photo, mais dans le même style.
Oui.
Donc si elle la voyait, elle m'identifierait.
Oui, ben, très bien.
Et ça n'a pas loupé.
Très bien.
Elle m'a écrit en me disant, je vois que tu es parti dans la quête d'une autre.
Oui.
Finalement, c'est mieux comme ça. On se serait fait du mal, et patati et patata.
Voilà.
Et puis elle me dit, à partir de maintenant, je ne te répondrai plus. Et attention.
Oui.
Parce que là, la suite, elle est complètement, sinon tordue, du moins tourmentée, je vous explique.
Oui.
Je ne vais pas citer mot à mot, hein, mais elle m'a écrit ceci. Elle m'a dit, je te remercie, parce que tu m'as fait un apprentissage accéléré de la vie.
Oui.
Elle faisait allusion
à... C'est toujours
à
très
de...
grandiloquent. Hein.
Ouais, énormément grandiloquent.
Quand même, hein. Oui.
Dans l'emphase la plus
oui,
absolue.
Oui, oui. Oui.
Et attendez, le pire est à venir. Et elle me dit, j'ai adoré quand tu répétais ton texte, tu m'as fait découvrir d'autres choses, et je suis convaincue qu'un jour, tu brilleras par ta présence sur une scène, toi tu seras vivant sur la scène, et peut-être qu'un jour, moi je serai au fond d'une salle dans le noir, et je ferai partie des morts vivants. Et attention, et elle signe une phrase. Et attendez.
Pardonnez-moi.
Non, mais je vous en prie. Je vous en prie. Votre rire est signifiant. Parce que c'est tout à fait ça.
Oui, moi, c'est trop, là.
Attendez. Et moi, étant tellement dans le.
Oui.
Non, au contraire, Caroline. Au contraire.
Oui.
Et d'ailleurs, pardonnez-moi, je vais vous faire une remarque personnelle qui n'engage que moi.
Oui.
Ce que j'aime chez vous, c'est votre spontanéité, vous voyez? Vous voyez, ça me plaît.
Bah oui,
voilà.
Merci.
Voilà.
Mais...
Et attendez, le pire est à venir. Et elle me signe, enfin elle me signe, elle met une citation, comme dans un devoir bien écrit, une citation d'une poétesse où elle écrit, entre guillemets, « C'eût été beau de s'appeler ta bien-aimée ». Vous voyez un petit peu le truc. Vous voyez le truc.
Oui. Oui, je vois complètement. Oui, c'est complètement sublimé, magnifié.
Déplacé, j'ai envie de dire.
Et complètement. Enfin, au départ, on se disait, ça pourrait faire, vous qui aimez les mots, qui allez sur scène interpréter justement les mots des autres, cette histoire, ça pourrait être... on pourrait l'écrire, au fond. On pourrait l'écrire et... telle qu'elle, vous voyez, quand elle dit un jour tu brilleras, tu seras sur scène, et moi je serai dans la salle. Je me disais, vous voyez, ça pourrait être presque. Enfin, il y a quelque chose à écrire autour de ça, sur une rencontre pendant 2 mois. Vous ne vous êtes jamais rencontrés, et elle viendrait comme ça, dans la salle, dans le noir, vous contempler, mais le coup des morts vivants, c'est pour ça que j'ai éclaté de rire, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Il y a quelque chose là qui colle pas, qui est complètement décalé. voyez, qui est complètement décalé.
Savez, je vais vous donner une information importante que j'aurais dû dire plus tôt, parce que ça aussi, rétrospectivement, c'est très étrange. Oui. Quand elle s'est présentée à moi, au début, elle me disait, d'ailleurs, elle m'a dit, j'ai quelque chose à te dire d'important. Puis avant de me révéler la chose, elle me dit, je vais donner deux... Vous voyez le côté littéraire un peu tordu.
Oui.
Je vais te donner deux références.
Oui.
Et ces références, c'était Paul de Carotte. Paul de Carotte. Et d'autre part, la lettre au père de Kafka. Je ne voyais pas du tout ce qu'elle voulait.
Où elle voulait en venir. Oui.
Et en fait, elle voulait en venir, soi-disant, au fait qu'on pouvait être malheureux dans sa propre famille. Et elle s'était présentée comme une enfant battue par son père.
Oui.
Au début, j'ai cru.
Ben oui.
Maintenant...
Maintenant, je comprends qu'au fond, vous ne savez pas, oui. Oui.
Voilà, je suis complètement dans le trouble. Mais toujours est-il.
Mais bon.
Parce que moi, je suis passionné par l'histoire de l'art. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ou c'est à Paul que je l'ai dit au téléphone. Moi, je suis un multipassionné, humblement.
Mais entre autres choses,
j'ai deux passions qui sont l'histoire des religions et l'histoire de l'art.
Oui.
Avec.
C'est lié, en fait.
Voilà. Oui, et j'ai le culte du beau. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le culte du beau. Donc, la beauté plastique, par définition, mais pas que la beauté plastique, la beauté de l'âme, la beauté des choses. Et là, rétroactivement, et c'est bizarre parce que ce que vous venez de me dire, j'ai un vague projet. Mais il faut que je passe de l'autre côté de la vague, des émotions, parce que là, bon, ça va mieux. Ce soir, j'ai pu vous appeler.
Oui, il faudrait écrire, enfin.
Parce que, voilà.
Mais on voit bien les références, là. À un moment, on était dans Shakespeare. Et puis, bon, là, on voit d'autres références. Elle était certainement magnifiée, sublime. Elle voulait renvoyer une image d'elle-même très gratifiante. Et pareillement, la réciproque est vraie pour vous, voyez, avec quelque chose de très sublimé. Si ce n'est qu'à un moment, il y a d'autres références qui apparaissent, celles des morts vivants. Et là, on bascule dans le gore.
Oui, exactement.
Vous voyez, on n'est plus dans la littérature. Bon, et c'était peut-être là un des aspects des facettes de cette jeune femme. Mais franchement, c'est à mettre un peu sur le papier, il y aurait à écrire là-dessus. Et cela dit, encore une fois, je comprends que vous ayez été transporté, et même, vous l'avez dit, très euphorique au début. Il y avait quelque chose de grisant dans cette rencontre. Et vous, en plus, étant confiné, ne pouvant pas répéter vos textes, là, vous aviez cette première spectatrice. Enfin, il y avait quelque chose de très beau. Mais au fond, cette femme... Vous ne savez pas qui elle est, finalement.
Non.
La barre a été placée tellement haut, quand elle vous l'a dit, d'ailleurs, cette relation est si belle, qu'au fond, le réel ne pourrait presque que décevoir. Et parfois, dans ces relations où on va très loin, comme ça, on a peur de la rencontre. Parce qu'on s'est construit une telle image de l'autre et aussi de soi-même qu'on a peur que le réel nous déçoive.
Vous savez, Caroline, modestement, pour ma part, le réel ne me fait pas peur.
Oui, mais vous aviez raison de lui dire à un moment c'est bien beau le virtuel et le fantasme, mais que c'est bien aussi d'être dans la vie et que y a la vie aussi, il faut l'empoigner, il faut la vivre pleinement et le désir. Or là, elle n'était pas là-dedans. Au fond, vous ne savez rien d'elle, vous dites à un moment mytho, oui, c'est possible. Cette histoire d'homme de 70 ans, ça se trouve, il n'existe pas. En tout cas, vous, heureusement qu'à un moment, vous avez, parce que dans ces provocations, vous avez réagi. Et je trouve qu'il n'y a pas lieu de vous en vouloir là-dessus. Et c'est ce qui a commencé à finalement faire un peu retomber ce schéma très... comment dire, très fantasmé, très idéalisé, vraiment. Elle laisse. Oui. C'est ce que dit Cathy. Cathy d'ailleurs, qui dit curieusement, ça me rappelle ce que fait une de mes amies sur les réseaux. Elle ne veut jamais rencontrer les hommes. Elle laisse planer un flou artistique. Et puis il y a Laurence, il y a Michel qui dit mais ça pourrait être une vraie pièce de théâtre, un scénario de film. Il y a Sergio qui dit voilà, stop au virtuel, on revient dans la vraie vie, le concret, le réel. Vous, vous pouvez vous mettre en scène. Voilà. Vous avez cette chance-là.
Oui,
donc, et dans la vie, c'est bien de se mettre en scène, et c'est bien aussi, je suis d'accord avec vous, de vivre. De vivre des histoires, des rencontres, des étreintes réelles, et pas seulement par écran interposé. Mais elle ne veut pas.
Voilà. Moi, je le revendique. D'ailleurs, vous voyez, je le lui ai dit sur l'enregistrement, parce que j'ai laissé beaucoup de messages, trop. Hein. À la limite, je satisfaisais mon pauvre ego froissé. J'arrêtais pas de lui dire des choses comme ça. Ouais. Toi, tu me donnes l'image d'une Emma Bovary éternelle. C'est magnifique,
c'est
la culture. Ça nous sauve la vie, la culture, la littérature, les arts, ça nous sauve la vie. Ouais. Mais
enfin, Emma Bovary, elle était au moins dans la réalité. Elle avait des
amants. Elle était au moins dans la réalité,
bien sûr. Alors que vous restez derrière un
écran. Je disais justement, je ne parlais pas de moi parce que moi je reste modeste, mais il y en a qui en font leur métier de l'imaginaire. Ils écrivent des bouquins, ils font des tableaux.
Et vous jouez avec cela, vous aussi.
Voilà,
mais elle en joue. Et sur les réseaux sociaux, c'est très facile en fait de se planquer derrière un personnage. Et au fond, alors on ne sait pas et on ne le saura jamais, à la limite, peu importe. Mythomane, on peut se raconter une vie. Finalement, la crainte de décevoir. Parfois plus que d'être déçu, vous voyez. Enfin, elle vous entraînait dans quelque chose où il était temps d'y mettre un terme. Parce que vous avez été sur un versant très euphorique, et je comprends, très grisant, et aussi intellectuellement, enfin très stimulant.
Oui.
Et là, finalement, ça basculait dans quelque chose qui devenait plutôt une pièce de boulevard. Et je n'ai rien contre le théâtre de boulevard.
J'entends bien.
Vous voyez. Donc, à un moment... Bon, il faut savoir arrêter. Et finalement, ça peut vous inspirer. Et vous avez très bien fait de remettre cette annonce. Vous voyez à quel point ça la titille. Mais maintenant, vous ne lui répondez plus. Et en revanche, n'attendez pas trop avant de rencontrer quelqu'un.
Bien sûr.
Vraiment.
Mais vous savez, je veux dire, j'ai vraiment traversé l'enfer. Parce que pendant 3 semaines... J'étais physiquement tellement mal, angoissé.
Oui,
je prenais des trucs pour dormir. Mm. Et là, ça fait 5000 piles. Ça va être la 6e ce soir où je me dis c'est fini. Parce que
c'est tordu.
Voilà, voilà. Mais le problème, vous voyez, je vais pas citer François Truffaut, l'homme qui aimait les femmes, mais j'ai tellement besoin d'avoir une muse dans ma vie. C'est une souffrance. D'ailleurs, vous voyez, c'est la dernière phrase du dernier métro de Truffaut avec Depardieu et Catherine Deneuve. T'aimer est à la fois un plaisir et une souffrance. Et moi, l'amour, chez moi, c'est ça. C'est à la fois mes plaisirs. Attention,
vous êtes un grand idéaliste. Oui, attention.
Ah, complètement.
Oui, attention.
Je suis un idéaliste, je le revendique.
Bon. Mais vous pouvez...
Je suis un idéaliste concret.
Ouais.
Vous voyez ? C'est-à-dire que pour moi, la
pas trop, là. Là, dans ce que vous nous racontez, vous avez un peu basculé, attention.
Ah, là, j'ai basculé.
En tout cas, moi, je vous conseillerais de ne plus répondre. Parce que d'abord, quand vous avez remis cette annonce et qu'elle a tout de suite répondu, ça veut dire qu'elle-même, elle était sur ce site.
Ben oui.
Elle y est toujours.
Ben oui, elle y va,
donc, elle cherche d'autres. Quand à un moment, le miroir se brise, elle va chercher d'autres. Alors, je ne dis pas qu'elle le fait. Il y a des gens qui existent de cette façon-là. Parce qu'ils ont du mal à exister dans la réalité. Donc, ils existent comme cela. Mais à un moment, vous, il faut couper court. Parce que ça devient plus du tout bénéfique pour vous. Alors, il y a Alice qui dit, oui, le virtuel, ça a des avantages, mais dans certains cas, ça peut devenir assez néfaste, pour ne pas dire toxique. Il y a Clotilde qui dit, attention à l'écran Prozac. Elle dit, oui, l'écran qui fait figure office d'antidépresseur, et qui nous console, qui nous rassure, qui nous renvoie aussi un miroir de nous-mêmes, dans la meilleure version de nous-mêmes. Alors, elle conseille le livre que je conseille souvent, du psychanalyste Pascal Couder, L'amour au coin de l'écran, qui en parle de ces amours virtuels et des effets qu'elles ont psychiquement, parce qu'on peut effectivement tomber dans un vrai chagrin d'amour sans avoir rencontré la personne, parce que la relation est virtuelle, mais vos sentiments, vos émotions ne le sont pas. Et donc, il explique très bien cela, et c'est rare que les psychanalyste se penche sur ces faits-là. Or, on est dans cette ère du virtuel. Clotilde qui ajoute, avec une telle classe, Jess doit faire tomber beaucoup de femmes. Nous attendrons donc la prochaine muse, dit Clotilde. Voilà. Il y a Fabienne, elle dit, oh là 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 là, attention Jess, elle est un peu manipulatrice, voire un petit peu cinglée, je cite Fabienne. Dire donc, prenez vos distances. Bon,
ben, et vous savez, voilà. En même temps, ouais. J'ai eu l'image de la femme enfant.
Oui, mais attention à ça.
Et la femme enfant, ouais. Souvent, c'est toxique. Enfin, j'aime pas tomber dans des stéréotypes.
Si, si, mais enfin, oui, je suis d'accord avec vous. La femme enfant plaît beaucoup aux hommes, le désir de protection et tout. Mais à la longue, c'est un peu suant, hein, une femme enfant. Hein. Vous voyez, à un moment, on a envie de dire « grandis, ma grande hein. ». Bien, enfin, quelques réactions aussi sur Facebook, RTL-parlons-nous, peut-être, Paul.
Il y a pas mal de réactions. Là. Je vais vous donner le premier message qui est à contre-courant des autres. C'est Françoise qui dit bah, « cette dame semble craindre le face-à-face, n'aurait-elle pas un corps dont elle souffre ? Peut-être un handicap ?»
Voilà. C'est possible, parce qu'en plus, on peut mettre une photo qui ne correspond pas du tout à la réalité.
Ah non, mais attention, j'avais des vidéos d'elle, elle me faisait des vidéos que je n'ai
Donc elle n'a pas un corps...
Donc elle était elle a un très corps. Jolie.
Ouais. Bah, désolé, Françoise.
Je l'ai vu.
Mais ça peut arriver. Oui, voilà. Mais vous voyez à quel point elle joue. Elle joue, ouais. Elle fait monter l'attention, votre désir. Bon, avant, on dirait que c'est une allumeuse. Maintenant, on allume aussi via les réseaux sociaux.
Et puis surtout, ce qui me gênait, moi qui suis comédien, modestement, ouais. elle minaudait beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça me gênait.
Oui. Bah, oui, parce qu'à un moment, effectivement, ça reflète une absence de sincérité. Paul, d'autres réactions ?
Myriam, qui aussi dit dans le récit de Jess, ils ont entretenu une relation de fascination et c'est difficile de redescendre vers une rencontre plus simple par la suite. Maïté, qui dit, elle a repéré un vide qu'elle-même avait, elle s'y est engouffrée, la relation a nourri un espoir, il fallait s'y attendre un petit peu. Sylvie aussi, qui dit, les sites de rencontres, un peu plus générales, que de choses inattendues, que de chimères, on fantasme, on sublime, on y croit et on se noie, que d'investissement pour un résultat proche de zéro. Voilà pourquoi moi j'ai abandonné depuis un bail. Rien ne vaut une rencontre de face à face où on jauge l'autre avec une communication non verbale qui vaut 1000 discours. Et oui, c'est les premières minutes que ça se passe. On gagne du temps dans cette communication non verbale. Courage Jeff, il y a de gentilles filles hors de ces sentiers. Bien glauque, dit Sylvie. Et alors Liadjen, qui parle des sites de rencontres, elle dit « Certaines aiment beaucoup jouer ainsi, mais au moment de se rencontrer, plus personne ». Et certaines ont fait des paris même et rigolent ensemble avec leurs compagnons.
Ah bon
ça existe.
Ah bon ?
Alors, moi, je ne savais pas ce que dit Jen, c'est un jeu malsain.
C'est Jen qui dit ça ?
Eh oui, oui.
Bah, ça serait bien qu'elle nous appelle, parce que visiblement, elle a
si elle est au courant,
une expérience. Peut-être avez-vous vécu quelque chose comme cela. Moi, j'ai découvert, quand j'avais invité ce psychanalyste, Pascal Couder, je me disais... Au départ, je vous avoue que j'avais du mal à comprendre, parce que j'avais des personnes qui m'appelaient et qui étaient dans un parfois profond chagrin, et avec une histoire qui avait duré parfois pendant des mois, où ils n'avaient jamais rencontré la personne, mais en fait, ils s'étaient beaucoup investis. Et il y avait une présence quasi quotidienne. Et en fait, oui, mais j'avais bien sûr compris que même si on était dans le virtuel, parce qu'il n'y a pas eu de rencontre réelle, ce que ça déclenchait en eux, en vous, en l'occurrence, tous ces sentiments, ces émotions, elles ne sont pas virtuelles. Et que c'est beaucoup plus difficile de faire le deuil, finalement, d'une relation que l'on n'a pas vécue.
Parce qu'on n'a pas pris sur une réalité.
C'est ça que l'on a. Alors, en même temps, vous qui aimez tant être dans le contrôle, il y avait un sentiment où il y a eu un moment où vous aviez certainement le sentiment de contrôler. Et à un moment, ça vous échappe. Mais c'est bien que ça vous échappe. Il y avait trop de contrôle dans l'histoire. Trop de contrôle, y compris par rapport à l'image que l'on veut donner à l'autre. Et dans l'amour, dans la rencontre amoureuse, à un moment, il y a une forme d'abandon. C'est-à-dire qu'on est fauché, littéralement. Fauché. C'est-à-dire que c'est justement tous ces sites de rencontre où il y a tant de critères. À force de mettre tant de critères, on passe à côté de la véritable rencontre. Celle qui nous bouscule. Celle qui fait qu'on ne contrôle plus rien. Donc, des muses, oui. Et pas trop dans la vie réelle, j'ai envie de dire, mon cher Jess. En tout cas, merci, parce que votre histoire nous a fait vibrer. On sent que vous êtes comédien et vous nous l'avez fait partager intensément. Mais il faut revenir à la réalité, répéter, et puis on espère vous retrouver sur scène le plus vite possible. Je vous embrasse.
Je vous embrasse aussi. Merci.